Assalamu alaikum, bienvenue. Donc nous allons poursuivre, inshallah, sur les cours de sciences islamiques. Et bien sûr, on traite bien sûr du sujet indispensable de la science de la religion. Donc il y a un minimum indispensable que c'est un devoir de connaître dans la science de la religion. Concernant la croyance, les pratiques telles que la prière, le péché, le repentir. Et le plus important, c'est la foi, bien évidemment. Car la croyance, la foi est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres. Sans la foi, il n'y a pas de récompense. Donc c'est pour cela, c'est important de maîtriser ce sujet-là, la foi sur les attributs de Dieu, les attributs des prophètes, comment préserver son islam des choses qui l'annulent. Donc c'est un sujet très important et les savants musulmans, donc c'était leur habitude de parler de ce sujet-là. Donc parce que c'est l'enseignement du prophète, alayhi salat wa salam, il enseignait les sujets de la croyance en priorité. Et ça, c'est tous les prophètes d'ailleurs. Comme par exemple un exemple très connu dans le Coran où le prophète Youssef, au moment il était emprisonné injustement, et il est cité dans l'histoire qui est citée dans Sourate Youssef que des gens lui demandaient l'interprétation d'un rêve. Avant de répondre à leurs questions, il leur répond par ce qui est le plus important. Il leur parle de la croyance de l'unicité de Dieu, que c'est sa religion et la religion de ses ancêtres. Parce que c'est le fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Après, il répond à leurs questions. Et ici, pour montrer que c'est le plus important, le sujet de la croyance. Donc nous avions parlé de la dernière fois sur la prédestination. Donc on a vu plein de preuves sur le fait que Dieu a créé toute chose, que tout est créé par Dieu, que Dieu fait ce qu'il veut, qu'il n'a pas de compte à rendre, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc c'est important de réviser les cours précédents pour bien comprendre et pour bien assimiler et avancer donc comme il faut. Donc Dieu le créateur de chaque instant des corps et des caractéristiques, nos idées, notre mouvement, notre immobilité sont créés par Dieu. Donc c'est un sujet très très important parce que croire qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu, donc ça c'est contraire à la croyance et ça annule l'islam. C'est impossible rationnel qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait voulu. Donc le bien et le mal sont créés par Dieu, sauf que Dieu récompense le bien, il récompense pas le mal. Il agrée le bien, il n'agrée pas le mal. Donc il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Donc c'est un sujet très important qu'on a vu, qui fait partie des fondements de la religion. Et des piliers de la foi, cité notamment dans le hadith. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhiri. Donc ça, c'est un sujet très très important. Donc aujourd'hui, dans la continuité, on parlera des attributs de Dieu, Inch'Allah, un peu plus donc en détail. Donc les savants sunnites on dit, il est un devoir personnel pour toute personne responsable, pubère et Saint-Esprit. Donc on a vu aussi précédemment la personne responsable, c'est celle qui va rendre des comptes. Pubère, Saint-Esprit, qui a entendu la base de l'appel à l'islam. Donc ils ont dit que c'est un devoir de connaître 13 des attributs de Dieu. Donc connaître, c'est-à-dire qu'il est un devoir d'en connaître la signification, sans que ce soit un devoir d'apprendre par cœur les termes même de ces attributs. Donc vous voyez, c'est précis là. C'est pas de connaître, ça n'est pas un devoir de connaître par cœur les termes même, mais de savoir la signification. Que Dieu est tout-puissant, qu'il a pour attribuer la volonté, qu'il sait tout. Donc cette connaissance est un devoir du fait que ces attributs, ces 13 attributs, ont été fréquemment mentionnés dans le Coran. Soit littéralement, soit selon leur signification. Les attributs de Dieu sont de toute éternité. Ils sont exempts de début et de fin. Ils ne changent pas. Ils n'ont pas de ressemblance avec les attributs des humains. Donc ces attributs sont obligatoires selon la raison pour Dieu. S'agissant de Dieu, ils sont obligatoires. Car s'ils n'étaient pas attribués de ces attributs, ils seraient attribués du contraire, qui est une imperfection, et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Du fait qu'ils sont obligatoires s'agissant de Dieu, selon la raison, renier un de ses attributs, ça annule l'islam de la personne. Quoique la personne fût ignorante, quoique la personne elle est plongée dans l'ignorance, elle n'a pas d'excuse parce que la raison confirme ses attributs au sujet de Dieu. Donc ça, c'est un sujet très important. Attribuer à Dieu l'incapacité ou l'espace ou le temps, ça, c'est contraire à la foi complètement. Il n'y a pas d'excuse, même si la personne elle a lu à droite, à gauche des livres ou elle a été égarée par des gens. Il n'y a pas d'excuse sur ce sujet-là. Parce que celui qui est impuissant, il ne peut pas être Dieu. Celui qui a une forme, une quantité, c'est forcément une créature, etc. Donc, plusieurs savants, ils ont cité cela, comme le cheikh Abdul Wahid ibn Hajar al-Ansari al-Ash'ari al-Maliki. Donc, très connu, le savant de Fès, c'était son traité qui était enseigné dans tout le Maghreb. Mais d'autres aussi ont cité cela. Il a dit que Allah lui fasse miséricorde dans son livre Al-Murshid al-Mu'in. En arabe, en fait, il a dit. Et ça, c'est le sens. Il est obligatoire, selon la raison, s'agissant de Allah, l'existence, l'exemption de début, de même que l'exemption de fin. Le non-besoin absolu, son exemption de toute ressemblance avec ses créatures, son pareil. L'unicité de par lui-même, de par ses attributs et ses actes. Une puissance, une volonté, une science, une vie, une ouïe, une parole, une vue lui sont obligatoires. يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال قدرة إرادة علم الحياة سمع بصر كلام ذي واجبات. Donc il a dit cela. Donc ça, c'est toujours pour montrer que cet enseignement, c'est pas nouveau, c'est l'enseignement traditionnel sunnite, l'enseignement de la majorité, l'enseignement des compagnons, des quatre écoles. Donc voilà l'enseignement sunnite, qui était enseigné depuis des siècles et des siècles. Et maintenant, Ashab dont on parle, là, dont extrait ce passage, comme je l'ai déjà dit, c'est enseigné dès 7 ans. Par exemple, à la Zaytouna, par exemple en Tunisie et dans l'Algérie, le Maroc, c'était enseigné donc du nord au sud dans ces pays-là. Dès 7 ans, on apprend donc ce traité-là et son explication. L'explication, La plus connue, c'est Ad-Durr-Thamin de Mayara aussi, qui est de Fès. Et d'ailleurs, lui, il dit que celui qui attribue à Dieu le corps, il est égaré, il est mécréant, selon l'unanimité, qu'il est ijtahada am qallada, il dit. Ça veut dire qu'il est suivi comme ça des gens, ou qu'il a fait un effort tout seul et qu'il a trouvé cette croyance-là dans laquelle il attribue à Dieu le corps, mais il est égaré. Dans le commentaire de ce livre-là, il dit ça. Donc, faire attention, la religion, ça s'apprend par chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance. C'est pas en lisant à droite et à gauche tout seul, en faisant des recherches. Beaucoup, ils lisent dans les livres tout seuls et s'égarent. Donc, les 13 attributs de Dieu qui lui sont obligatoires selon la raison sont les suivants. L'existence, l'unicité, l'exemption de début, c'est-à-dire l'existence de toute éternité, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole et la non-ressemblance avec ce qui entre en existence. Donc l'attribut de Dieu, l'existence. Dieu existe de toute éternité sans début. Allah Ta'ala, Ta'ala veut dire qu'il est exempt d'imperfection. Donc on traduit le sens. Il y en a qui traduisent mot à mot, ils disent le très haut, des choses comme ça. Donc la langue arabe, donc comme en français, il faut traduire le sens du mot. Donc ça c'est important. Dans la langue c'est important, on donnera des remarques sur la langue parce que des gens qui s'égarent ou ils tombent dans des sectes, c'est en l'interprétant mal, en comprenant pas la linguistique de tel hadith ou de tel verset et ils donnent un mauvais sens contraire. Donc, comment quelqu'un qui comprend pas bien le français, il va pas comprendre l'expression quelqu'un il a la main mise sur le secteur. Quelqu'un il a la main mise sur telle chose. Sur telle chose. Quelqu'un qui ne comprend pas le français, il va pas comprendre. Quelqu'un qui comprend le français, il va savoir la main mise, ça veut pas dire il a une main réellement. Ça veut dire il domine cette chose-là. Donc, au français. Donc, en arabe aussi, il y a des expressions. Ils sont employés dans le Coran ou dans les hadiths ou dans les paroles des savants. Donc Allah Ta'ala dit Afillahi shak, ce qui signifie il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de Allah. L'existence de Dieu n'est pas due à la création de quiconque. Dieu existe, il n'a pas de ressemblance avec les créatures. Et donc ce monde, il est appelé alam en arabe, ça veut dire ça vient de alam, c'est un signe de l'existence de Dieu. Allah Ta'ala dit wa fi anfusikum afala tubsirun, c'est-à-dire en vous-même il y a des preuves. Donc nous on a existé après ne pas avoir existé, forcément il y a qui nous a fait exister et celui qui nous a fait exister lui n'a pas donc de ressemblance avec les créatures, il n'a pas de début. Il ne change pas, il existe sans comment, sans endroit. Car il a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Comme l'a dit l'imam Ali, que Allah l'agrée et honore son visage. Allah est de toute éternité, alors qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Kan Allahu wa la makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan. L'imam Ahmed al-Rifa'i l'a dit aussi. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. La limite de la connaissance que l'on peut avoir de Allah, c'est d'avoir la certitude de son existence, ta'ala, sans comment et sans endroit. Notre connaissance de Dieu ne peut pas atteindre la réalité de Dieu. Mais elle concerne ce qui est obligatoire au sujet de Dieu. Comme la science, ce qui est impossible à son sujet, comme le fait d'avoir un associé, et ce qui est possible à son sujet, comme le fait de créer une chose, de créer quelque chose, et de l'anéantir. Donc, ça, par exemple, c'est enseigné aux débutants. Donc, c'est enseigné aux débutants. Moi-même, j'ai un livre de quelqu'un, il est décédé, il nous a laissé un livre. C'était en Tunisie, école primaire. Donc, enseigner aux enfants ses 13 attributs. Et c'est dit, donc en arabe, connaître Dieu, c'est connaître ce qui est obligatoire à son sujet, l'exempter de ce qui est impossible à son sujet, et connaître ce qui est possible à son sujet. Donc c'est enseigné aux enfants débutants école primaire. Donc on trouve des gens, ils vont 20 ans à la mosquée, dans une mosquée, ils connaissent même pas cette phrase-là, ce détail-là, cette précision-là. Donc on voit, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la religion, elle a commencé étrange et elle redeviendra étrange comme elle a commencé. Donc connaître Dieu, donc c'est à retenir par cœur ça, comme j'ai dit, c'est enseigner aux enfants. C'est connaître ce qui est, pour résumer, ce qui est possible, ce qui est obligatoire, impossible et possible à son sujet. Ce qui est obligatoire à son sujet, c'est les attributs de perfection. Ce qui est impossible à son sujet, c'est donc l'associé, la quantité, la localisation, l'anéantissement, le changement. Et ce qui est possible à son sujet, c'est créer une chose ou ne pas la créer. Et ça rejoint ce qu'on a dit le dernier cours. Donc vous voyez, quand il commence par les bases, les gens comprennent mieux les sujets de la religion. Ça rejoint, donc c'est important, connaître ce qui est possible à son sujet, c'est créer une chose ou ne pas la créer. C'est-à-dire, comme on l'a dit, l'autre fois, Dieu n'est pas obligé de créer telle ou telle chose. Ça veut dire, il n'est pas obligé de te donner telle ou telle chose, ou tel bienfait, ou la guider, parce que tout ça, c'est créé par Dieu. Donc, la guider, ou tel bienfait, ou le paradis, ou l'enfer, ce n'est pas obligatoire sur Dieu. Créer une chose, on ne peut pas la créer, c'est possible à son sujet. Bien sûr, étant donné que Dieu nous informe de telle et telle chose, c'est obligatoirement qu'elle aura lieu. La récompense pour ceux qui ont cru et le châtiment pour ceux qui ont mécru. Mais à l'origine, on dit c'est pas obligatoire au sujet de Dieu de donner la guidée ou le paradis ou l'enfer ou la récompense. Donc connaître Dieu, c'est connaître ce qui est possible, impossible et obligatoire à son sujet. Ce qui est obligatoire, c'est les attributs de perfection. Ce qui est impossible, donc l'exempter de ce qui est impossible à son sujet, la forme, la quantité, la localisation, donc la faiblesse, l'incapacité, et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Donc, mais on ne peut pas atteindre sa réalité. Aussi, c'est connaître par cœur. Seul Dieu sait sa réalité. Ni prophète, ni ange, ni humain ne connaissent la réalité de Dieu. Et on a déjà vu le verset, Wala yuhituna bihi ilma. C'est-à-dire, il ne cerne pas sa réalité. Les créatures ne cernent pas la réalité de Dieu. C'est ça la foi, comme ils ont dit, Abou Bakr, le grand compagnon, l'imam Shafi'i. La foi, c'est que tu reconnais que tu es incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Tu reconnais qu'il y a le Créateur et qu'il ne ressemble pas aux créatures. C'est ça la foi. Et comparer, faire une similitude entre Dieu et les créatures, c'est l'égarement. Et c'est là le piège dans lequel Shaitan fait tomber des gens. Même des gens, malheureusement, des gens qui ils ont grandi dans un pays musulman, mais dans l'ignorance, malheureusement, parce que l'enseignement a été fermé. C'était c'est-à-dire au grand public avant l'enseignement dans le pays musulman. Maintenant, il faut aller voir le savant qu'il est dans chez lui ou dans tel village, ou etc. C'était avant le grand public, maintenant il n'y a plus ça. Donc, il n'y a pas l'enseignement grand public de ces sujets de base. Avant la colonisation, surtout, il y avait ça. Ce qui fait des gens, ils grandissent sur des, maintenant, dans l'ignorance. Shaitan leur fait imaginer des choses, ils commencent à adorer des choses. Et alors leur adoration, leur prière n'est pas valable. Ils adorent des créatures qui s'imaginent. Alors la croyance, c'est que tu n'assimiles pas Dieu à ces créatures. Laïsa kamithlihi shay, c'est-à-dire rien n'est tel que lui. Donc l'attribut de Dieu, l'unicité. Allah est unique, il n'a pas d'associé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de second. Dieu n'est pas composé de parties comme les corps, car le trône ou n'importe quel corps, même le plus petit, est composé de parties. Il est donc impossible qu'il y ait une ressemblance entre le trône et Dieu. Allah n'a pas de ressemblant, ni par son être, ni par ses attributs, ni par ses actes, comme la parole plus haut de Ibn Ajah. Allah Ta'ala, exempté d'imperfection, il dit « Wa ilahukum ilahun wahid », ce qui signifie « Votre Dieu est un Dieu unique ». Et comme il a dit l'imam Abu Hanifa, donc il a dit, l'imam Abu Hanifa a dit, Allah est unique, non pas du point de vue numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. C'est dans ce sens-là, c'est précis la parole d'Abu Hanifa, il a plus de 1000 ans. Donc, c'est pas dans le sens numérique. Dans le sens numérique, c'est pour les créatures. Quelqu'un, il est unique, ou tel objet est unique, mais ça reste une créature qui a des parties qui se divisent, qui a une forme, etc. Mais Dieu est unique dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Si Allah Ta'ala n'était pas unique, mais multiple, le monde ne serait pas ordonné. Or, le monde est ordonné. Il est donc obligatoire qu'Allah soit unique. Donc, il y a la preuve rationnelle qui va venir sur ce sujet. Donc, c'est ça, on dit Allah est unique dans le sens qu'il n'a pas d'associé. La preuve rationnelle de son unicité est qu'il est indispensable que celui qui crée l'univers soit vivant, tout-puissant, ayant une science, une volonté et un choix. Donc c'est une condition de la divinité, qu'il ne soit pas contraint. Comme il a été confirmé que celui qui crée l'univers a pour attribut ce que nous avons cité, nous disons que si le monde avait deux créateurs, il serait obligatoire, selon la raison, que chacun d'eux soit vivant, tout-puissant, ayant une science, une volonté, un choix. Or, il est possible, selon la raison, à deux êtres ayant le choix, qu'ils divergent dans leur choix, car chacun d'entre eux n'est pas obligé d'être en accord avec l'autre dans son choix. Sinon, il serait contraint. Et celui qui est contraint ne peut avoir la divinité. Par conséquent, si cela était valable, si l'un des deux voulait l'opposé de ce que veut l'autre pour un même sujet, comme si l'un voulait la vie pour un homme et que l'autre voulait sa mort, il n'en irait pas autrement que leurs deux volontés se réalisent, ou que les deux volontés ne se réalisent pas, ou que la volonté de l'un se réalise, et que la volonté de l'un se réalise et non celle de l'autre. Il est impossible, selon la raison, que leurs deux volontés se réalisent du fait de leur contradiction mutuelle. C'est-à-dire que si l'un d'eux voulait qu'un homme vive et que l'autre voulait qu'il meure, il serait impossible que cet homme soit vivant et mort en même temps. Si leurs deux volontés ne se réalisent pas, ils sont tous les deux impuissants. Enfin, si la volonté de l'un d'eux se réalise et celle de l'autre ne se réalise pas, alors celui dont la volonté ne se réalise pas est impuissant, et celui qui est impuissant ne peut avoir la divinité, il ne peut être exempt de début. Cela montre clairement qu'il est impossible, selon la raison, l'associer au sujet de Dieu. Donc on va la relire. Donc cette preuve est connue chez les savants du Tawhid et elle est appelée la preuve de l'incompatibilité mutuelle. Allah Ta'ala dit « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » Ce qui signifie « S'il y avait pour le ciel et la terre des dieux hormis Allah, les cieux et la terre seraient certes en discordance. » Sourate Al-Anbiya, ayat 22. Donc c'est une des preuves que c'est impossible qu'il y ait un associé à Dieu. Donc s'il y avait deux dieux et que l'un d'eux voulait que le contraire de l'autre en une chose, car il n'est pas obligé de le suivre, sinon il serait contraint, et celui qui est contraint, déjà il n'est pas Dieu. Donc si l'un il voulait le contraire de l'autre en une chose, ben c'est impossible que les deux volontés se réalisent, parce que un, il peut pas être mort et vivant à la fois, parce que ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. La réunion de deux choses opposées est impossible. Un objet ne peut pas être mort au mouvement immobile à la fois. Un humain ne peut pas être mort et vivant à la fois. Donc c'est impossible la réalisation de deux volontés. Et la non-réalisation des deux volontés nie la divinité pour les deux. Et la réalisation de la volonté de l'un et pas de l'autre nie la volonté, nie la divinité pour celui dont la volonté ne s'est pas réalisée. Donc dans les trois cas de figure, ça confirme la divinité pour un seul créateur. Donc vous voyez comment ils s'expriment, ils disent, donc les savants ils disent si ça, ça. Ça, c'est tiré du Coran. Ils disent pas comme certains ignorants, ils te disent, allez, certains ignorants, ils savent pas s'exprimer, la religion est des règles. On est jugé sur ce qu'on dit, sur ce qu'on écrit, sur ce qu'on fait dans l'islam. Du moment qu'on est pubère, c'est un esprit. Donc certains ignorants, ils font des conférences, ils disent, allez, admettons, ils disent, disons-nous qu'on est athée ou des choses comme ça. On dit pas comme ça. On dit si ceci, ça mène à cela. Si ceci, cela. Donc, voilà comme le verset signifie s'il y avait pour les cieux et la terre des dieux hormis Allah, les cieux et la terre seraient certes en discordance. Donc, on va relire. Donc, voilà la preuve. Donc, la preuve rationnelle de son unicité est qu'il est indispensable que celui qui crée l'univers soit vivant, tout-puissant, ayant une science, une volonté et un choix. Comme il a été confirmé que celui qui crée l'univers a pour attribut ce que nous avons cité, nous disons, si le monde avait deux créateurs, il serait obligatoire, selon la raison, que chacun d'eux soit vivant, tout-puissant, ayant une science, une volonté et un choix. Or, il est possible, selon la raison, à deux êtres ayant le choix, qu'ils divergent dans leur choix, car chacun d'entre eux n'est pas obligé d'être en accord avec l'autre dans son choix. Sinon, il serait contraint. Et celui qui est contraint ne peut avoir la divinité. Par conséquent, si cela était valable, si l'un des deux voulait l'opposé de ce que veut l'autre pour un même sujet, comme si l'un voulait la vie pour un homme et que l'autre voulait sa mort, il n'en irait pas autrement que leurs deux volontés se réalisent, ou que leurs deux volontés ne se réalisent pas, ou que la volonté de l'un se réalise et non celle de l'autre. Donc il est impossible, selon la raison, que leurs deux volontés se réalisent du fait de leur contradiction mutuelle. Comme on a dit, parce que la réunion de deux choses opposées est impossible. Rationnel. C'est-à-dire que si l'un d'eux voulait qu'un homme vive et que l'autre voulait qu'il meure, il serait impossible que cet homme soit vivant et mort en même temps. Si leurs deux volontés ne se réalisent pas, ils sont tous les deux impuissants. Enfin, si la volonté de l'un d'eux se réalise et celle de l'autre ne se réalise pas, alors celui dont la volonté ne se réalise pas est impuissant, et celui qui est impuissant ne peut avoir la divinité. Il ne peut être exempt des débuts. Cela montre clairement qu'il est impossible, selon la raison, l'associer au sujet de Dieu. Cette preuve est connue chez les savants du Tawhid et elle est appelée la preuve de l'incompatibilité mutuelle. La preuve de l'incompatibilité mutuelle. Allah Ta'ala dit « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ce qui signifie « s'il y avait pour le ciel et la terre » des dieux hormis Allah, les cieux et la terre seraient certes en discordance. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair ce point-là. Donc on a déjà dit précédemment, faire attention, donc l'impossible reste impossible, ne change pas. Et l'obligatoire reste obligatoire. Donc faire attention aux questions pièges. Si quelqu'un il dit, si quelqu'un il dit, est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu? C'est un blasphème. On ne dit pas oui. On dit la bonne réponse, c'est de dire l'associer à Dieu, c'est impossible, rationnel. Et la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. Ou on peut dire l'impossible n'est pas concerné par la puissance de Dieu, parce qu'il est impossible rationnel. Donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Par sa puissance, il crée et il anéantit. Et qu'est-ce qui admet le fait d'être créé ou anéanti, c'est les créatures. Donc l'attribut de Dieu, l'exemption de début. Allah Ta'ala est exempt de début dans le sens que son existence n'a pas de commencement, c'est-à-dire qu'il existe de toute éternité. En effet, il est obligatoire que Dieu existe de toute éternité, sinon il aurait besoin d'autre que lui. Et celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Ainsi, tout ce qui est hormis Allah Ta'ala est entré en existence, c'est-à-dire créé. Tout ce qui est autre que Dieu est créé, c'est-à-dire toutes les créatures. Allah Ta'ala, exempté d'imperfection, dit ce qui signifie il est celui qui est exempt de début et exempt de fin. Sourate Al-Hadid, ayat 3. Celui qui n'a pas de début et n'a pas de fin. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh. Ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'existe de toute éternité. Cela veut dire que Dieu existe de toute éternité et nul autre que Dieu n'existe de toute éternité. Ni eau, ni air, ni terre, ni ciel, ni trône, ni piédestal, ni ange, ni temps, ni endroit. Dieu a créé, on a dit, le monde en deux sortes, les corps et les caractéristiques des corps. Les corps palpables ou impalpables, donc comme l'air, l'obscurité, la lumière, et les caractéristiques, le goût, l'odeur, la pensée, les sentiments, les idées, tout est créé par Dieu. Allah est celui qui crée l'endroit, il n'en a donc pas besoin. Donc n'est pas musulman celui qui dit que le monde est de toute éternité, par son genre seulement ou par son genre et sa composition. Ceci de la mécréance et comporte un démenti de Allah et de son messager. Ainsi, seul Dieu existe de toute éternité. Donc faire attention, il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Et toutes les créatures ont un début. Et c'est Dieu qui leur a donné le début. Donc Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, il ne change pas. Il ne dépend pas du temps, il existe avant l'espace, le temps. Donc on ne compare pas Dieu aux créatures. Ceux qui comparent Dieu aux créatures, donc ceux qui assiment Dieu aux créatures, tels que les Wahhabiyas, qui comparent Dieu aux créatures. C'est la créature, donc le corps est nécessairement dans un endroit. C'est impossible que le corps soit, ne soit pas, donc un corps est forcément occupe un espace, est localisé. Donc Dieu n'est pas un corps, donc n'est pas concerné par l'espace. Donc l'attribut de Dieu, l'exemption de fin. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah existe et son existence n'a pas de fin. Il ne lui advient pas d'anéantissement, puisqu'il a été établi au sujet de Dieu l'obligation de son exemption de début, puisqu'il a été confirmé au sujet de Dieu l'exemption de début, il est donc obligatoire à son sujet l'exemption de fin. L'exemption de fin qui est obligatoire à Dieu est l'exemption de fin propre à son être, c'est-à-dire que ce n'est pas autre que lui qui l'en a attribué. Et Dieu est exempt de fin par lui-même et non pas par autre que lui. Donc ça c'est cité, c'est important, pour bien montrer que c'est pas comme le paradis, l'enfer. Ils ont pas de fin parce que c'est Dieu qui leur a voulu la non-fin. Parce que quand on dit le paradis, l'enfer n'ont pas de fin, ça veut dire les instants sans fin du paradis, de l'enfer sont créés par Dieu. Et ils ont une non-fin qui dépend du temps. Chaque instant est créé par Dieu sans fin. Mais quand on dit Dieu, il est sans fin, c'est-à-dire il ne dépend pas du temps. Sa non-fin est propre à lui-même. Tous les attributs de Dieu sont propres à lui. Personne ne lui a donné cela. Les attributs de Dieu ne se séparent pas de lui. Mais on dit aussi que ses attributs ne sont pas lui. C'est ce qu'ils disent les sunnites pour répliquer à la secte Mu'tazila. Et pour répliquer aussi aux certains... Et sectes qui ont suivi certaines idéologies contraires à l'islam. Donc à savoir, il n'est pas permis de dire que Dieu c'est la vie, ou c'est la puissance créatrice, ou c'est le moteur éternel, ou la cause des causes, ce genre de choses que disent les non-musulmans. Et certains, ils les répètent, ça c'est un égarement. Donc on n'est pas permis de dire que Dieu c'est la cause. Une cause, Et en arabe, ils disent fa'ilun bil ikhtiyar, les savants. C'est un acteur sans volonté. Le mouvement de, par exemple, le mouvement du doigt, dans ce doigt il y a une bague, donc implique le mouvement de la bague. C'est pas un choix du doigt que la bague bouge, mais du fait que le doigt bouge, la bague bouge parce qu'elle est dedans. S'il y a le soleil, il n'y a pas de barrière, ben, il y a la lumière du soleil. C'est une cause pour la lumière. Donc ces paroles-là que disent certains, donc c'est un égarement. C'est contraire au fondement de la religion, que Dieu est le créateur, pas une cause. On ne dit pas c'est Dieu la vie ou le Dieu la puissance, ou ils disent l'intelligence suprême. Donc faire attention. Donc on propage pas n'importe quoi. Et des gens ils propagent des fois il y a des vidéos, il y a du vrai et du faux. Certaines vidéos, par exemple, ils nient contre, ils parlent faites par des non-musulmans, mais ils répliquent aux athées quand même. Ils montrent que ce monde il a forcément un créateur, mais ils vont employer des termes qui sont pas corrects. Ils vont dire ah, ça veut dire qu'il y a une intelligence supérieure ou des choses comme ça. Donc on dit pas comme ça. On dit Dieu est un être qui a pour attribut des attributs. C'est ça, la croyance sunnite, contrairement à la secte donc Mu'tazila et autres sectes aussi. Donc les sunnites suivent le juste milieu. Donc ce n'est pas ils n'assimilent pas Dieu à ses créatures comme certaines sectes comme les Wahhabis, et ils nient pas les attributs de Dieu comme les Mu'tazila. Les Mu'tazila nient les attributs de Dieu. Ça c'est un égarement, ça c'est un égarement. Donc les sunnites suivent le juste milieu. Donc l'exemption de faim, donc Allah Ta'ala a dit Dieu est exempt de faim par lui-même et non pas et non par autre que lui. Allah Ta'ala a dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ce qui signifie l'être de ton Seigneur ne s'anéantit pas. Sourate Ar-Rahman. Là aussi wajh au sujet de Dieu, ça veut dire l'être de Dieu. Donc comme on l'a dit, on n'interprète pas le Coran comme ça, on regarde pas les traductions, des applications comme ça. Ça s'apprend par transmission. Donc c'est en langue arabe, comme en français, il y a plein d'exemples qui montrent les sens figurés, et en arabe aussi, c'est encore plus riche. Quand il est employé wajh, ça peut avoir le sens de l'être de Dieu, ça peut avoir le sens de l'obéissance à Dieu, ou la souveraineté de Dieu, comme l'expliquait le Bukhari pour le verset. Pareil pour le mot yed. Donc, pour le mot yed, ça a le sens aussi de puissance, comme c'est-à-dire Dieu a créé les cieux par sa puissance. Donc, faire attention, la non-compréhension de la langue, c'est pour ça, c'est un danger, du moins pour celui qui. Il va oser expliquer les textes et parler des textes, et on trouve des gens, malheureusement, même de nos jours, donc ils inventent des croyances et donc contraire en interprétant mal certains versets. Donc faire attention, c'est pour ça les savants de l'islam c'est très fort dans la langue arabe, comme Zajjaj, Fayrouz Abadi, Fayoumi, et les gens des quatre écoles aussi maîtrisaient. Donc la langue arabe pour pouvoir expliquer correctement les versets ou les hadiths. Donc quant à la non-fin de certaines créatures de Dieu comme le paradis et l'enfer établi par l'unanimité, ce n'est pas une non-fin qui est propre au paradis et à l'enfer, car ils sont tous deux créés et ce qui est créé ne possède pas la non-fin par soi-même. En effet, le paradis et l'enfer n'ont pas de fin. N'ont pas de fin parce que Dieu leur a voulu de toute éternité la non-fin. Mais ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils n'ont pas de fin. On l'a expliqué, ça veut dire, quand on dit le paradis, l'enfer n'ont pas de fin, ça veut dire les instants du paradis et de l'enfer sont créés par Dieu sans fin. En fait, leur non-fin, elle dépend du temps, en fait. C'est par le passage du temps qui passe un instant après un instant sans fin. Nous, on passe un instant, chaque instant il passe, il ne revient plus, jusqu'à la fin, notre fin, puis la fin du monde. Et après la mort, il n'y a plus de fin. Ça veut dire quoi? C'est des instants créés par Dieu, comme maintenant, chaque instant est créé par Dieu, mais ça ne s'arrête pas. Mais Dieu, il n'a pas de fin par lui-même. Ce n'est pas par le passage du temps, l'écoulement du temps. Donc ça, c'est un sujet très très important. C'est les fondements. Donc l'attribut de Dieu, le non-besoin. Donc Dieu n'a pas besoin de ses créatures, car le besoin d'autrui est un signe de l'entrée en existence. Et Allah est exempt de cela, alors que toute chose a besoin de Dieu. Donc ça, c'est un sujet important. Dieu n'a pas besoin du trône, n'a pas besoin de l'espace, ni du temps. C'est ça la croyance musulmane qui est la seule religion conforme à la raison, qui est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. C'est que Dieu n'a pas besoin. L'espace, le temps, qui l'a créé, le trône, le paradis, c'est Dieu. Donc ça, c'est une des réponses très simples pour répliquer à des gens égarés qui attribuent à Dieu l'espace, le temps. Donc toutes les autres religions, ils attribuent à Dieu l'espace, le temps, la quantité, etc. Et ça, la réplique, elle est simple. Il a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Donc attribuer à Dieu l'espace, le temps, c'est contraire à la raison, donc c'est une croyance fausse. Tout ce qui est contraire à la raison, c'est faux. Donc c'est très simple. Donc Allah Ta'ala dit, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Certes, Allah n'a pas besoin des créatures. Sourate Ali Imran, ayat 98. L'imam Ali, que Allah l'agrée, a dit, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Donc Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Inna Allaha khalaqa al-arsha izhara li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Donc les actes d'adoration des croyants ne lui profitent pas. Et les péchés des désobéissants ne nuisent pas à Dieu. Donc il ne lui advient ni profit ni nuisance. Il a créé les cieux et la terre. Donc on dit que Dieu a créé les cieux et la terre, comme c'est dit dans le Coran, dans 6 jours, pour nous apprendre la douceur et nous apprendre à ne pas perdre patience. Donc la sagesse, c'est pour nous apprendre à faire les choses par étapes. Mais Dieu n'est pas concerné par la patience ou la fatigue ou les sentiments. Dieu existe sans endroit, sans direction, car il n'est pas sans corps. Donc Dieu est capable de créer le monde en un instant, il le crée et l'anéantit en un instant. Mais Dieu a fait que donc les cieux et la terre ont été créés, ce qui est entre eux, dans 6 jours. Et chaque jour vaut 1000 ans de ce que l'on compte. Mais lui, il ne dépend pas du temps. Donc, qu'est-ce qui dépend du temps? C'est les créatures. Donc, l'attribut de Dieu, la puissance. Donc, Dieu a pour attribut la puissance, et cet attribut est de toute éternité, exempt de début et de fin. Sa puissance concerne toutes les possibilités rationnelles. C'est-à-dire toute chose possible dont l'existence ou l'inexistence est possible selon la raison. C'est ce qu'on a dit précédemment, la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Donc ça, c'est un sujet très important. Quand on dit, donc Allah Ta'ala dit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est sur toute chose tout puissant. Surat al-Ma'idah. Sur toute chose ici veut dire le possible rationnel, pas l'impossible. Parce que l'impossible ne peut pas, n'admet pas le fait d'exister. Donc, si Dieu n'était pas tout-puissant, il aurait une incapacité. Et s'il avait une incapacité quelconque, le monde n'existerait pas. L'incapacité contredit la divinité. Donc, Dieu est tout-puissant et sa puissance concerne ce qui est possible selon la raison. Donc, vous pouvez lire ici l'explication détaillée qu'on vient de citer brièvement et on y reviendra, inshallah. En résumé, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison, donc à savoir toutes les créatures, et ne concerne pas l'obligatoire ni l'impossible. Donc c'est un sujet très très important. Parce que celui qui contredit ça, il s'égare. Donc il y en a, on a vu malheureusement, ils sont égarés en débattant avec ceux qui attribuent à Dieu le Fils ou d'autres sectes, parce qu'ils connaissent pas les sujets de base. On peut pas débattre comme ça sans connaître les sujets de base. Il y a des règles dans l'islam. Il faut que tu maîtrises le sujet pour débattre et tu ne peux pas pousser l'autre à faire la faute. à blasphémer ou à dire une chose contraire à l'islam. Comme il a dit Abu Hanifa, il a dit on faisait le débat comme s'il y avait des oiseaux sur notre tête de peur de faire glisser notre adversaire. Car celui qui veut faire glisser son adversaire, il s'égare avant son adversaire. Même dans un débat, tu ne peux pas pousser l'autre à dire une chose contraire à l'islam parce que sinon, c'est un blasphème pour toi. Tu répliques au sujet sans l'inciter à dire une chose contraire à l'islam. Donc il y a des règles dans la religion. Donc, il faut maîtriser le sujet, sinon tu tombes dans le piège. Comme certains, ils débattaient, il y avait quelqu'un très connu, il a débattu avec des gens, et ils l'ont poussé à dire que Dieu peut avoir un fils, ou dire que Dieu peut avoir un fils, c'est comme dire que Dieu peut s'anéantir. C'est le même faux raisonnement. C'est rendre possible l'impossible. Car l'impossible ne peut pas devenir possible et la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. Il n'est pas valable que l'impossible soit concerné par la puissance de Dieu, car il n'admet pas le fait d'exister. Donc vous voyez, la religion, c'est important. C'est pas, il y en a au travail, je débat avec des gens, donc des gens, ils n'ont pas appris la religion, et ils te racontent, oui, j'ai débattu avec quelqu'un au travail, je répliquais, non, tu débats pas. Il faut avoir maîtriser le sujet religieux. Quelqu'un qui s'intéresse, tu lui donnes une information. Et bien sûr, c'est Dieu qui guide, au final. On débat, il y a des règles. Il faut maîtriser, ne pas dire une chose fausse. Et tu ne veux pas dire une chose fausse juste pour le débat. En islam, c'est pas une excuse le débat. Quand est-ce que les anges ne notent pas? Quand tu perds raison. Ou par exemple, tu dors. Il note pas, ou c'est un lapsus, ou t'es menacé de mort. T'as dit la chose et puis tu y crois pas. Mais t'es menacé de mort, en direct. Quelqu'un, ça vient, il pointe sur toi une arme, qui va te tuer. Donc c'est ça les règles religieuses. Mais quelqu'un juste, il veut convaincre des gens, il va pas dire des bêtises pour convaincre des gens. Des gens, dans un débat, il dit, ok, t'as raison. Alors que l'autre, il a dit une chose contraire à la vérité, à la raison, à l'islam. Quelqu'un qui dit contraire à la raison, on ne peut pas dire tu as raison. On réplique ou on change de sujet. Donc on change de sujet, au moins on ne tombe pas dans l'égarement. Donc faire attention à cela. L'attribut de Dieu, la volonté, tu as pour attribut la volonté, c'est-à-dire le vouloir. Par cet attribut, Dieu spécifie les possibilités rationnelles par certaines caractéristiques au lieu d'autres. Allah a obligatoirement l'attribut de la volonté et sa volonté concerne la totalité des actes des esclaves, que ce soit des actes de bien ou de mal. Et ça, on l'a déjà cité dans le cours précédent. Le fait que la puissance de Dieu englobe tout, le bien et le mal, ça indique la perfection au sujet de Dieu. Parce que s'il était sa volonté ne concernait qu'une partie des créatures, ça veut dire qu'il serait contraint par quelqu'un qui l'aurait spécifié. Donc, le bien et le mal, il n'y a pas de différence dans le fait que les deux sont concernés par la volonté de Dieu. C'est impossible rationnel qu'il en soit autrement. Il a été rapporté que le prophète a enseigné à l'une de ses filles de dire « Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun ». Ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ce que Allah veut est, ce qu'il ne veut pas, tout ce qui arrive, c'est sous la volonté de Dieu. Et on a détaillé cela, les savants disent la haraka wa la sukun illa bi mashi'atillah takun. Il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. La tataharraku dharratun illa bi idhnihi. Un grain de poussière ne peut bouger que par la volonté de Dieu. Donc l'attribut de Allah, la science, Dieu sait toute chose de toute éternité, sa science n'a pas de début ni de fin, il ne change pas. Il sait ce qui était, ce qui sera et ce qui n'arrivera jamais. Donc il sait toute chose, il n'apprend rien, il ne change pas Dieu. Donc, comme on l'a dit, il faut toujours revenir aux règles, à la règle, on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu. Et on ne peut pas comparer Dieu aux créatures. Les créatures, ils apprennent, ils changent, donc c'est forcément comme ça les créatures. Mais Dieu, lui, ne dépend pas du temps, ne change pas. Il sait tout, il n'apprend rien. Il sait tout, absolument. Rien ne lui est caché, donc Dieu sait. Chacun, qu'est-ce qu'il va faire exactement dans sa vie, qu'est-ce qui va lui arriver, combien de respirations il va faire, combien de pas il va faire, combien de clignements d'œil il va faire dans sa vie. Il sait tout. Donc ce ventre, quand on dit c'est un test pour nous, on dit Dieu nous teste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est des épreuves de cette vie. Et c'est un test pour nous, pour manifester ce qu'il sait de nous. Ça ne veut pas dire Dieu comme Dieu n'est pas comme un prof qui teste les gens parce que le prof il sait pas ton niveau, il te teste. Non. Test, ça veut dire ce monde est une épreuve et ça manifeste qui va obéir ou non. Mais Dieu il sait avant que le monde existe qu'est-ce que tu vas faire exactement car c'est lui le créateur de tes actes. Il dit d'ailleurs dans Sourate al-Mulk, Ala ya'lamu ma khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. C'est-à-dire ne sait-il pas ce qu'il crée? C'est-à-dire, c'est impossible. Tu ne sais pas, alors que c'est lui qui crée. Donc, Allah Ta'ala dit, wa huwa bi kulli shay'in alim. Ce qui signifie, il sait toute chose. Ainsi, savoir la totalité des choses cachées est spécifique à Dieu. Mais Dieu révèle une partie de ces choses cachées à certaines de ses créatures, telles que les prophètes, les saints et les anges. Donc celui qui dit que le messager sait absolument tout ce que Dieu sait devient un non-croyant. Car celui-là a assimilé le messager de Dieu à Dieu. Celui-là a assimilé le messager de Dieu. Il a assimilé le messager de Dieu à Dieu par l'attribut de la science. Il y a certaines sectes, ils disent que cela. Et ça, c'est un égarement clair. Donc on n'adore pas le prophète. On respecte, on honore le prophète. On aime le prophète. On n'adore que Dieu. Et donc on reviendra sur le sens de adorer. L'adoration, c'est s'humilier à Dieu, l'extrême humiliation. Donc adorer une créature englobe plusieurs choses, comme attribuer à la créature un attribut de Dieu, c'est l'adorer. Donc on adore que Dieu. Donc l'adoration, dans ce sens-là, s'humilier à l'extrême. C'est que pour Dieu. Et ça englobe de croire que seul Dieu il sait tout. Seul Dieu est tout, sur toute chose tout puissant. Seul Dieu peut faire passer les choses du néant à l'existence. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut décréter telle chose permise ou interdite, méritant le châtiment dans l'au-delà ou autorisée. Attribuer cela aux créatures, c'est un blasphème. Donc, comme Dieu nous apprend dans le Coran, ceux qui ont adoré leur chef religieux en croyant qu'ils ont le droit d'interdire ou d'autoriser de leur propre chef ou de pardonner les péchés ou ils attribuaient à Isa, Jésus, la divinité. Donc ça c'est dit dans le Coran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Donc seul Dieu il sait tout. Et les prophètes ne savent que ce que Dieu leur a donné à savoir. Ce qui est établi parmi les gens du Tawhid, c'est que les caractéristiques des créatures n'ont pas de ressemblance avec aucun des attributs de Allah. Donc les attributs des créatures n'ont pas de ressemblance avec les attributs de Dieu. Donc il n'est pas permis de croire que Dieu apprend des choses, car ceci revient à attribuer à Dieu l'ignorance et le changement, et ceci de la mécréance. Dieu sait toute chose avant qu'elle n'ait lieu. La science de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas et tous ses attributs ne changent pas. Celui qui change a besoin de qui le fait changer. Donc il est créé. Donc sache que la science de Allah est éternelle, exempt de début, tout comme son être est exempt de début. Il est de toute éternité. Donc il est de toute éternité un être qui sait sa propre réalité, ses attributs et ce qui fait exister comme créature. Dieu sait sa réalité, il sait les créatures qu'il crée. Il n'est pas caractérisé par le fait d'avoir des connaissances, une science qui advient, car s'il lui était possible d'être caractérisé par des choses qui adviennent, cela exclurait l'exemption de début à son sujet, parce que celui qui est sujet aux choses qui adviennent a obligatoirement une existence ayant un début. Donc Dieu n'est pas concerné par les créatures, car s'il lui advenait des choses, ça veut dire qu'il change d'un état à un autre, et celui qui change a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Car le changement, c'est quoi? C'est l'anéantissement d'un état et l'entrée en existence d'un état. Donc, quant à sa parole, Ta'ala, Al-ana khaffaf Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Donc, elle signifie, maintenant, Allah vous allège votre charge, car il sait de toute éternité qu'il y a en vous une faiblesse. Ça ne veut pas dire que maintenant il sait ce qu'il ne savait pas, non. C'est maintenant qu'il y a l'allègement pour vous, mais Dieu, il sait de toute éternité qu'il y aura une faiblesse en vous. La signification est donc que Allah vous allège votre charge maintenant, parce qu'il sait par sa science de toute éternité qu'il y a en vous une faiblesse. De même, sa parole Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Ce qui signifie nous vous éprouvons de sorte à faire distinguer, c'est-à-dire à manifester aux créatures qui fait ce qui fait l'effort pour obéir à Dieu et fait preuve de patience contrairement aux autres, alors que Allah le sait de toute éternité, tout comme l'a rapporté Al-Bukhari d'après Abu Ubaida Ma'mar ibn al-Muthanna. Ceci est similaire à sa parole Ta'ala liyamiz Allah al-Khabith ibn al-Tayyib, ce qui signifie pour qu'Allah manifeste à ses esclaves qui est mauvais parmi eux et qui est bon parmi eux. C'est pour manifester aux créatures. Ça ne veut pas dire pour que Dieu apprend ce qu'il ignore. C'est impossible, rationnel. Et comme on a dit, dans tous les cas, expliquer les versets de manière à contredire la raison, c'est un blasphème, ça contredit la croyance musulmane. Il n'y a pas d'excuse en cela. Du moment que la personne pubère, c'est un esprit ayant entendu la base de l'appel à l'islam. Donc l'attribut de Dieu, l'ouïe, Allah Ta'ala entend toute chose par une ouïe qui est de toute éternité, exempt des débuts, sans oreille, ni aucun autre organe, alors que l'ouïe des créatures est entrée en existence, c'est-à-dire créée. Allah Ta'ala dit, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, qui signifie rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Donc il a pour attribut la vue. Allah voit toute chose par sa vue qui est de toute éternité. Sa vue n'a pas de ressemblance avec la vue des créatures, car Dieu voit sans avoir besoin de rétine ni de rayons lumineux, alors que la vue des créatures s'effectue grâce à un organe. Ainsi celui qui veut être sauf doit absolument apprendre la science de l'exemption de Dieu, le tanzih, par transmission orale auprès des gens de science, pour ne pas tomber dans l'assimilation de Dieu à ses créatures. Donc, et là on parle à la fin de l'attribut de... Donc on va parler de l'attribut de Allah la vie, et on reviendra. Donc l'attribut de Dieu la vie, Allah a pour attribut la vie qui est de toute éternité, exempt de début et de fin. La vie de Dieu n'est pas constituée d'âme, ni de chair, ni de sang. La mort est impossible au sujet de Dieu. En effet, s'il n'était pas vivant, aucune chose de ce monde n'existerait. Car ce qui n'est pas vivant n'est pas attribué de puissance, de volonté ni de science. Si Dieu n'avait pas pour attribut ces attributs-là, il aurait pour attribut l'opposé de cela. Or, Dieu est exempt d'imperfection. Quant à la vie des créatures, elle a lieu par la réunion de l'âme, du corps, de la chair, des os, du sang. Elle est sujette à l'interruption. La vie de Dieu est comme ses attributs. Elle n'est pas sujette à l'interruption. Allah Ta'ala dit... Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ce qui signifie, il n'est de Dieu que Allah, le vivant, celui qui n'a besoin de rien et qui ne s'anéantit pas. Donc, et on revient sur le sujet très important, on va finir là. Donc, l'attribut de Dieu, la parole. Donc, Allah parle et sa parole est exempte de début et de fin. Il n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. La parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Il ne lui advient pas de silence ni d'entrecoupement, car la parole de Dieu n'est pas constituée de lettres ni de sang. Et sa parole n'est pas une langue, tandis que la parole des créatures est constituée de lettres, de sang et avec des organes. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agré, a dit « Wallahu yatakallamu bi kalamin la yushbu kalamana, nahnu natakallamu bil alati min al makharij wal huruf, wallahu mutakallimun bila alatin wala harf. » Ce qui signifie Allah parle d'une parole qui n'a pas de ressemblance avec notre parole, alors que nous parlons avec des organes jouant sur des points de prononciation et avec des lettres. Allah parle sans organes ni lettres. Donc ce n'est pas une langue arabe ni notre langue, la parole de Dieu. Donc ça, c'est un sujet très important. Sa parole n'est pas ce n'est pas une langue ni arabe ni autre. Allah Ta'ala dit « Wa kallama Allah Musa taklima » ce qui signifie « Allah a assurément parlé à Musa » c'est-à-dire que Dieu a fait entendre à Musa sa parole sans que cela soit une voix, ni des sons, ni des ondes. Ainsi, la parole de Dieu est exempte de début, alors que Musa et sa compréhension ont un début. Il est obligatoire, selon la raison, l'attribut de la parole pour Dieu. Car s'il n'était pas attribué de parole, il serait attribué du contraire, qui est le fait d'être muet. Et ceci est une imperfection, et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Ainsi, nier l'attribut de parole de Dieu est de la mécréance catégorique, qui fait sortir de l'islam. De même, c'est de la mécréance de dire que Dieu parle avec des sons ou des lettres. Donc, c'est justement, c'est le débat contre ceux qui assiment Dieu à ses créatures et les Mu'tazila, donc avec les sunnites. Sur ce sujet-là, c'était donc très connu, parce que les sunnites disent qu'ils confirment l'attribut de parole de Dieu, ils nient pas, mais ce n'est pas des sons ni des lettres, ils ne ressemblent pas à la parole des créatures. Et ils disent que le mot Coran, il est employé dans deux sens. De même, le mot Injil, la Torah, il est employé dans ces deux sens-là. Le premier sens désigne l'attribut de parole de Dieu, que ce soit pour l'Injil, le Coran, les psaumes. Et donc, il n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures, n'a pas de début ni de fin, et qui est sans organe ni lettre, qui n'est pas une langue arabe, ni hébreu, ni araméenne, ni autre. Et le deuxième sens, donc, pour le mot Coran, ça désigne les termes révélés au prophète Muhammad, qui sont en langue arabe. Et l'Injil, ça désigne les termes révélés au prophète Isa, les vrais, bien sûr, on parle, en araméen. Et Taurat, ça désigne, donc le deuxième sens, ça désigne les termes en hébreu révélés au prophète Moussa. Et tous ces termes-là, en arabe, en hébreu, en araméen, sont créés par Dieu. Mais sont pas l'œuvre d'un humain ni d'un ange. On dit, on les appelle parole de Dieu. On peut les dire, on les appelait parole de Dieu. Mais on dit pas c'est l'attribut même de Dieu, car l'attribut de parole de Dieu n'est pas des sons ni des lettres. Mais on dit c'est la parole de Dieu. Parce que ça désigne, ce sont des expressions de l'attribut de parole de Dieu. Donc, et la langue arabe et toutes les langues sont créées par Dieu. Ces termes sont une expression de l'attribut de parole de Dieu. Et l'attribut de parole de Dieu n'est pas une langue arabe ni une autre langue. Mais nous pouvons dire des termes révélés qui sont en langue arabe, ou hébreu, ou araméenne, c'est la parole de Dieu, dans le sens que c'est une expression, parce que c'est une expression de l'attribut de la parole de Dieu, qui n'est pas des sons ni une langue arabe ni une autre langue, et qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Donc le mot Qur'an, ou Tawrat, ou Injil, ça désigne en premier l'attribut de parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit c'est la parole de Dieu qui n'est pas créée. Le Coran et l'attribut, on dit le Coran est la parole de Dieu. Le Coran est la parole de Dieu qui n'est pas créée. Car le premier sens, ça désigne l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas des sons, qui n'est pas des lettres, ni des ondes, et qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Et le deuxième sens, ce sont les termes révélés au prophète Muhammad, alayhi salam, pour ce qui est le Coran. Et pour l'Injil, c'est révélé à Isa, et la Torah révélée à Moussa. Et on dit, on peut les appeler, on peut dire, c'est la parole de Dieu aussi. Dans le sens de l'expression de l'attribut de parole de Dieu. Et l'attribut de parole de Dieu, dans tous les cas, ce n'est pas des sons ni des lettres, qui n'a pas de début, n'a pas de fin, ne ressemble pas à la parole des créatures. Ainsi, si nous écrivions Dieu, ce terme n'est pas le créateur lui-même, mais on dit bien j'ai écrit Dieu ou Allah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai écrit une expression qui désigne le créateur. De même, le Coran, dans le sens des termes révélés, n'est pas l'attribut de parole même de Dieu, mais c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas des sons, ni une langue arabe, ni une autre langue, qui ne ressemble pas à la parole des créatures, qui n'a pas de début ni de fin. Donc voilà, vous pouvez réécouter et relire plusieurs fois, ça aide à bien maîtriser le sujet. Et on finit avec l'attribut de Dieu, la non-ressemblance avec les créatures. Dieu a pour attribut toute perfection qui est digne de lui, il est exempt de toute imperfection. Exempt, l'exemption. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est l'exemption. De toute imperfection, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas digne de lui, Ta'ala, comme l'ignorance, l'impuissance, l'endroit, le lieu, la couleur, la limite, le changement, l'incapacité, etc. Allah Ta'ala dit « Laïsa kamithlihi shay'. » Donc c'est une négation dans l'absolu, ce verset, ce qui signifie « Rien n'est tel que lui. » L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, mort en 323 de l'Hijra, a dit « Il est exempt, c'est-à-dire Allah, des limites, des fins, des côtés, des organes et des membres, et n'est pas concerné par les six directions, contrairement à toutes les créatures. Cela indique clairement que Dieu n'est pas concerné par les six directions, comme c'est le cas pour tous les corps. En effet, les corps n'échappent pas au fait d'être contenus dans l'une des six directions, car le corps est forcément dans un endroit. Ainsi, Dieu existe sans endroit et sans direction. Allah subhanahu, exempté d'imperfection, n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures. N'a de ressemblance avec aucune de ses créatures, ni par son être, c'est-à-dire que son être n'a pas de ressemblance avec l'être des créatures, ni par ses attributs. Ses attributs n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures, ni par ses actes. Donc, ses actes n'ont pas de ressemblance avec l'acte des créatures. Ainsi, l'acte de Dieu est sans mouvement ni organe. Du fait que Dieu a voulu qu'une chose arrive, elle se réalise immanquablement. C'est pas comme les créatures, ils agissent avec acte, par contact, etc. Mais l'acte de Dieu, donc il faut bien comprendre, l'acte de Dieu, sans contact, sans organe, donc il crée par son acte de créer, comme ils ont dit les savants. Donc, comme il a dit lui-même, le Bukhari et d'autres savants, ils ont dit, l'acte de Dieu est sans début, et ce qui résulte de l'acte de Dieu est entré en existence. Ce sont les créatures. Donc c'est ce qu'il a dit, tout en haut on a vu la parole de Ibn Ashar, c'est-à-dire il est unique par son être, par ses attributs et par son acte. L'acte de Dieu sans début, sans fin, sans contact, sans organe. Donc ça, donc c'est très important, donc de bien réviser. Donc Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Donc révisez bien ce sujet qui est très important en réécoutant plusieurs fois. Donc il y aura la partie audio que vous pouvez télécharger, Inch'Allah. Et il y a la partie écrite aussi. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc voilà, on arrive à la fin. Barakallahu fikum. Donc révisez bien. Donc, les cours précédents aussi, pour ceux qui n'ont pas assisté au cours directement, ils peuvent réviser les autres cours. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursaleen, wa Khatamin Nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi tayyibina tahirin.